Raphaël Delvolvé.
Il est 18h35 sur Europe 1, place au débat d'Europe Soir avec ce soir Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président UDI de la région Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
Et face à lui, Charles Zitzenstuhl, député Renaissance, la majorité présidentielle, élu du Bas-Rhin. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Alors nous parlions d'Italie juste avant la pause. La probabilité très forte de voir l'extrême droite arriver au pouvoir. Votre réaction si Giorgia Meloni, héritière du fascisme, venait au pouvoir de la troisième économie de l'Union européenne. Charles Zitzenstuhl.
Bon, pour le moment, on n'y est pas. Il y a la campagne, on verra les résultats. Et moi, je ne vais pas préjuger du résultat dans un pays ami qu'est l'Italie. Après, si ça devait être le cas, je pense que ça serait un drame d'abord pour l'Italie et puis un drame pour l'Europe.
Jean-Philippe Dugoin-Clément.
Le pire n'est jamais certain, mais il n'est pas inenvisageable. On a eu M. Orban en Hongrie. On voit bien en Italie la montée de l'extrême droite depuis déjà quelques décennies. Le rapport de l'Italie par rapport à son histoire, par rapport au fascisme, n'a jamais été le même que ce qu'on a pu retrouver en Allemagne par rapport à la période post-1945. Et il y a effectivement un risque. Après, il va y avoir une campagne électorale. On verra ce que ça donne. Et moi, j'espère que nous n'aurons pas un deuxième pays après la Hongrie au sein de l'Union européenne. On pourrait parler de la Pologne, qui est extrêmement limite sur d'autres sujets, qui rentre dans le camp des aides de l'extrême droite.
Mais l'Italie est en première ligne à de graves problèmes que rencontre l'Europe. Je pense notamment à la crise migratoire.
Mais l'extrême droite s'est toujours nourrie des problèmes. L'extrême droite n'apporte pas de solution, elle se nourrit des problèmes. Et effectivement, l'extrême droite en Italie, par rapport aux difficultés que rencontre l'Europe, que rencontre l'Italie, a un terreau pour pouvoir fructifier.
Alors, ce qui m'intéresse dans le cas d'école italien, c'est qu'on était, avant que ces élections soient convoquées de façon anticipée, dans une situation de coalition fragile. Mmh. Ça fait un peu écho avec notre hémicycle en ce moment à l'Assemblée nationale. Charles Zitzenstuhl, pardon.
Je pense qu'on peut, pas comparer la situation française et la situation italienne. Les systèmes politiques sont très différents. La situation économique du pays...
Ce que je voulais dire, c'est que le compromis à tout va, ça finit par agacer.
Non, mais c'est très différent parce qu'en Italie, avec l'arrivée de Mario Draghi, il y a eu un gouvernement d'union nationale et ça a été le préalable à la nomination de Mario Draghi comme Premier ministre. Et puis ensuite, cette coalition s'est arrêtée et puis Mario Draghi rend les gants. Nous ne sommes pas dans ce cas en France, puisqu'il y a une majorité relative, certes, mais il y a une majorité qui est aux affaires, qui compose et soutient le gouvernement. Et puis cet été, on a passé des accords sur certains articles, sur certains textes, avec d'autres groupes de gouvernement. Donc c'est deux fonctionnements très différents.
Oui, un président qui a un pouvoir bien plus
important. Et par ailleurs, un président de la République,
France,
faut-il rappeler,
dissoudre l'Assemblée nationale,
qui est élu directement par
tout à fait.
Les Français.
Voilà. On passe maintenant à l'actualité du côté de chez nous. On a encore vu Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, à la télévision aujourd'hui. C'était pour parler d'incendie dans l'Aveyron, enfin dans toute la France. Il s'est également exprimé sur la situation dramatique en Gironde. Quand il ne parle pas des incendies, il parle d'immigration. Ce grand débat voulu à l'Assemblée en octobre, des rodéos urbains de l'imam Iqiyoussen. Il est en pleine offensive médiatique, politique même, non?
Je pense qu'il fait son travail. Et puis c'est très bien d'avoir un ministre de l'Intérieur offensif, engagé. C'est aussi le tempérament de Gérald Darmanin. Pour ceux qui le connaissent depuis longtemps, c'est mon cas, savent qu'il est toujours... 100% dans toutes les fonctions qu'il a pu occuper avant comme maire de Tourcoing, ministre du budget, puis maintenant ministre de l'Intérieur. Et je pense que c'est important qu'il soit effectivement sur tous les fronts.
Il y a une offensive politique, Jean-Philippe Dugoin-Clément.
Oui, bien évidemment. Le ministre de l'Intérieur, dans un gouvernement qui manque de poids lourds, prend du volume, cherche à se différencier, à porter une voix aussi de ce qui est la frange droite de cette majorité macronienne. Et puis, il y a un parallélisme, une sorte de mimétisme quasiment, je trouve, avec Nicolas Sarkozy. Quand on prend le parcours de Sarkozy et de Darmanin, quand on prend le mode d'exercice du pouvoir au sein du ministère de l'Intérieur, cette présence systématique sur le terrain, cette logique occupationnelle du terrain, une logique également de porter des débats, on l'a vu sur son projet de débat sur l'immigration, au-delà de ce que peut souhaiter le président de la République ou le Premier ministre, il y a un parallélisme d'efforts extrêmement fort entre le Sarkozy, ministre Chirac et Darmanin aujourd'hui. Et je pense que Gérald Darmanin aujourd'hui fait partie de ceux qui préparent la suite.
Charles Zitzenstuhl.
Bah, il fait son travail. Moi, je ne sais pas si Gérald Darmanin prépare la suite ou pas. Il y a des sujets extrêmement importants qui sont arrivés dans l'actualité et qui sont du ressort du ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'on ne dirait pas aujourd'hui si le ministre de l'Intérieur n'était pas en première ligne et était en train de vaquer à ses occupations personnelles.
On a connu des ministres de l'Intérieur un peu plus discrets médiatiquement, plus réservés, comprenez ce qu'on veut dire.
Chaque responsable politique, chaque ministre a son propre tempérament et a sa propre manière d'exercer son ministère. Gérald Darmanin est ministre maintenant depuis près de 3 ans. Il a été nommé en 2020. Il a été reconduit à plusieurs reprises dans ses fonctions. Il a été confirmé après l'élection présidentielle. Il a d'ailleurs été aussi élu député du Nord. Il s'est présenté au suffrage universel de ses propres électeurs. Il a été à chaque fois confirmé et par le président de la République et par les Français. C'est donc la preuve que son action rencontre un soutien et qu'il est au travail.
Alors il y a une affaire sur laquelle Gérald Darmanin n'en démord pas, c'est celle, vous savez, de l'imam Iqiyoussen dont on parle beaucoup.
Il a raison.
C'est un imam, un prédicateur controversé marocain, il cherche à le faire expulser de France. La justice administrative a suspendu l'arrêté d'expulsion. Il a interjeté appel, déposé un recours devant le Conseil d'État qui statuera, on l'apprend d'ailleurs, aujourd'hui, le 26 août prochain. On n'entend pas Emmanuel Macron sur la question, c'est normal ça aussi.
Bah, écoutez, le président de la République, il n'a pas à se mêler de tous les sujets. Le ministre de l'Intérieur, qui est une des personnalités...
Un ministre important du gouvernement.
Bien sûr.
S'il parle beaucoup de cette affaire, voilà, c'est que ça doit préoccuper l'exécutif.
Le ministre de l'Intérieur s'occupe de ce dossier maintenant depuis près d'un mois. Il est extrêmement présent, il a l'occasion de s'exprimer. Maintenant, il faut attendre que le Conseil d'État rende sa décision. Il serait aussi malvenu que dans l'intervalle jusqu'à la décision, le gouvernement ou d'ailleurs aussi des députés de l'Assemblée nationale commencent à s'immiscer dans cette affaire. Il faut attendre la décision maintenant du Conseil d'État.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, il a raison de se taire, Emmanuel Macron.
Que le président de la République prenne un peu de hauteur et ne soit pas l'homme à tout faire de la République, laisse des ministres exercer leur ministère, ça me semble quelque chose de normal. On a un peu perdu lors du dernier mandat le retrait, la hauteur nécessaire à un président de la République. Qu'Emmanuel Macron revienne à un exercice de la fonction présidentielle plus conforme au fond à l'esprit de la Ve République, moi c'est quelque chose qui me va bien. Après, aux ministres de faire leur job, et sur ce sujet particulier, effectivement, quelqu'un comme cet imam n'a strictement rien à faire sur le territoire. Le job du ministre de l'Intérieur, c'est d'arriver à aboutir à ce que cette personne quitte le territoire. Donc ce sera le cas au travers d'une décision du Conseil d'État, si le Conseil d'État réforme la décision au tribunal administratif, et si ça n'est pas le cas, ça veut dire que c'est la loi qui devra être changée.
Charles Zittenstuhl, cette affaire démontre quoi ? L'inefficacité de notre système judiciaire ?
Au contraire, moi je pense que cette affaire, elle montre bien que l'État, maintenant depuis quelques années, a réorienté son action de façon sérieuse sur la lutte contre l'islam radical. Il faut savoir que depuis le dernier quinquennat, ce sont plusieurs dizaines d'imams de ce type ou prédicateurs qui ont été expulsés. Alors tous ne font pas la une de la presse comme c'est le cas cet été, qu'il y a eu des fermetures administratives de lieux de culte où on pouvait soupçonner qu'un islam dur y soit prêché, qu'il y a aussi eu des fermetures complètes de mosquées, et il y a notamment eu cette grande loi sur le séparatisme qui a été votée l'année dernière.
Elle
et
ne fonctionne pas, visiblement.
Mais au contraire, mais bien au contraire. C'est-à-dire que cette loi, elle a donné des moyens aux agents de l'État, elle protège les agents de l'État et a notamment créé ce délit de séparatisme. Les moyens des services de renseignement et des services de police ont été augmentés dans la lutte contre l'islam radical. Et bien au contraire, pour moi, cette affaire Iqiyoussen montre qu'il n'y a plus la légèreté qu'on pouvait avoir il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années sur ces affaires-là, mais que bien au contraire, l'État est maintenant en ordre de marche dans la lutte contre l'islam radical.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, elle fonctionne, cette loi séparatisme ?
On va avoir l'exemple en grandeur de nature le 26 août. Si le corpus réglementaire et légal français permet d'expulser cet imam, c'est que la loi fonctionne. Si ça ne le permet pas, c'est que la loi ne fonctionne pas et qu'elle devra être révisée.
Alors, on maintient Gérald Darmanin dans ces cas-là ?
Non mais Très bien. Enfin, je suis pas là. Moi, je suis pas représentant de la majorité présidentielle. Je suis pas là pour défendre dans de l'opposition constructive. Moi, je suis pas là pour défendre le ministre de l'Intérieur sur ce sujet. Il fait son job. Il n'est pas possible que le ministre de l'Intérieur n'aille pas au bout de cette procédure. Ce dont on peut s'interroger, mais c'est pas le fait du ministre, c'est le fait de son administration. C'est de savoir dans quelle mesure le mémoire, la défense faite devant le tribunal administratif par le ministère a été suffisamment étayée pour ne pas aboutir à avoir une décision favorable. Ce qui est d'autant plus surprenant que le Maroc n'a pas émis d'opposition à l'expulsion, a accepté sur son territoire cet imam, alors que c'est souvent le cas, le pays d'origine n'accepte pas l'expulsion. Et contrairement à ce que dit complaisamment le Rassemblement national, il n'y a eu aucune opposition européenne de la part de la CEDH à cette expulsion. Le problème ne vient...
Le recours n'a pas été déposé au bon moment.
Le problème ne vient actuellement que de cette décision de tribunal administratif. Donc, on peut se poser la question de savoir comment était monté le dossier. Après, le ministre de l'Intérieur, là-dessus, il fait son boulot. J'espère qu'il le fera complètement et que cet imam sera expulsé.
Alors, offensive médiatique, politique ou non, Gérald Darmanin semble parler à sa droite. Et pendant ce temps-là, du côté des députés Renaissance, un certain Sacha Houlier, issu de ce qu'on appelle l'aile gauche de la Macronie, a lancé cette idée, cette proposition de loi même, c'est très sérieux, d'accorder le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Je précise, aux étrangers extra-européens. Vous êtes favorable à cette mesure, Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous qui êtes maire de Mennecy d'ailleurs.
Je suis totalement défavorable. Aujourd'hui, les ressortissants communautaires ont le droit de vote aux élections locales et européennes avec un phénomène de réciprocité. Ça, c'est quelque chose de normal. Il y a une citoyenneté européenne, il y a une réciprocité qui existe. Ce qui est proposé là, c'est démembrer l'État français. La citoyenneté, c'est l'exercice du devoir, du droit politique de décider où va la nation, où va l'État, ce que devient le pays. Et ce qui est proposé là, c'est de finir de démembrer l'État français. Et puis sur le fond, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement cynique et dangereux, ce qui est fait par M. Houlier. D'une part, il sait que ça n'a aucune chance d'aboutir. Chance d'aboutir parce que la droite, l'extrême droite, le centre droit et une grande partie de sa majorité n'en veulent pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une partie de Renaissance et l'extrême gauche qui soit prête à aller voter pour. S'il veut aller voter avec Mme Rousseau un texte de ce type, eh ben bon courage à lui pour aller le faire. Il aura Mme Rousseau, M. Caron, M. Boyard, très bien. Mais il sait que ça n'aboutira pas. Et la deuxième chose, vous voyez, l'extrême droite est aux portes du pouvoir en Italie. Elle a progressé comme elle n'a jamais progressé en France. On est dans un pays où il y a un climat social d'une animosité, d'une tension absolument folle. Je pense qu'aller mettre ce type de débat, c'est aller jouer au bout de feu. C'est quelque chose qui est dangereux et c'est quelque chose, je pense, d'assez irresponsable au fond.
Charles Zitzenstuhl, comment vous avez réagi quand vous avez vu cette proposition de loi? Vous étiez au courant depuis combien de temps?
Alors moi, je l'ai appris dans la presse, hein, puisque cette proposition est une proposition individuelle de Sacha Houlier. Alors moi, c'est un...
Il est membre de votre groupe.
Il est membre de notre groupe, mais c'est une proposition qu'il a déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale à titre personnel. Il est le seul co-signataire de cette proposition de loi et ce n'est pas un sujet dont on a eu l'occasion pour le moment de débattre au sein de la majorité présidentielle. À titre personnel, moi, j'y suis défavorable. Je pense que c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'en France, sous la République, nous avons construit le vote avec la citoyenneté. On vote parce qu'on est citoyen. On appartient à une communauté politique qui est la nation française. Et depuis 30 ans, s'est ajouté à cela l'Union européenne, qui est notre deuxième communauté politique, ce qui fait que comme Européens, nous pourrions voter dans un autre pays membre de l'Union européenne et qu'à l'inverse, les ressortissants européens peuvent voter aux élections municipales et européennes dans notre pays. Mais il y a une logique derrière ça. Vote égale citoyenneté égale communauté politique. Si on accorde le droit de vote aux étrangers non européens, on va accorder le droit de vote du fait de la résidence. On vote parce qu'on habite en France ou dans telle commune. Donc on casse le lien entre le vote et la citoyenneté. Et c'est contraire pour moi à la tradition française. Et donc je suis défavorable à cette idée.
En tout cas, cette proposition de loi séduit déjà vos adversaires, vos opposants de la NUP. Manon Aubry, eurodéputé La France Insoumise, nous l'a dit ce matin sur Europe 1.
Je constate que la proposition de Sacha Houlier, ceci dit, a fait un tollé au sein de la majorité. Je crois qu'ils ont des questions ou des débats à avoir entre eux, parce que l'aile gauche essaie d'exister avec beaucoup de difficultés. J'espère surtout qu'ils iront au bout.
Est-ce que c'est bien le moment d'enflammer le débat politique sur cette question, Manon Aubry ?
Vous savez, quand il s'agit du combat pour les droits, il n'y a jamais de mauvais moment. Et c'est toujours un bon moment de se battre pour défendre les droits. Et donc, si Sacha Houlié provoque un débat sur le sujet, c'est tant mieux. En tout cas, vous voyez, il a été beaucoup question depuis le début de ce mandat de quelle pourrait être la participation de la NUP. S'il y avait une proposition comme celle-là sur la table, eh ben, nous nous ferions un plaisir de la voter. Je constate juste que le gouvernement, pour le moment, a plutôt regarder du côté de la droite, voire de l'extrême droite de l'hémicycle, plutôt que du côté de la gauche. Donc j'ai mes doutes sur le fait que ça aille au bout.
L'eurodéputée La France Insoumise Manon Aubry qui répondait aux questions de Lionel Gougelot ce matin sur Europe 1. Son analyse n'est... il y a du bon sens, c'est-à-dire que on a l'impression que pendant que le ministre de l'Intérieur va parler à sa droite, il y a l'aile gauche de Renaissance qui fait coucou, on est là, ne nous oubliez pas.
Bon, c'est absolument pas la lecture que j'ai. Encore une fois, c'est une initiative individuelle. Nous n'avons pas eu l'occasion d'en discuter.
Ça fait deux fois que Sacha Houlié se réveille. Au moment de l'examen sur le projet de loi de finances rectificative, il avait proposé une loi, enfin un amendement pour instaurer une taxe sur les super-profits. C'est une idée qui vient plutôt de la gauche, ça aussi.
Mais il y a eu, pour le coup, sur ce sujet, il y a eu un vrai débat au sein du groupe et au sein de la majorité présidentielle. Il n'était pas le seul, d'ailleurs, à proposer cette idée. Et cette idée, d'ailleurs, n'était pas que soutenue par ce que vous appelez l'aile gauche de la majorité présidentielle. Il y a eu un vrai débat de fond, parce que ce sujet mérite un vrai débat de fond. Là-dessus, encore une fois, c'est une proposition qui a été faite après la fin de la session, que je sache. Et c'est une proposition pour le moment individuelle. On n'a pas eu l'occasion d'en parler au sein du groupe.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, on a l'impression que le clivage gauche-droite, en fait, il est au sein de la majorité présidentielle.
C'est un peu le problème du en même temps et c'est un peu le problème de chercher à exister quand on est au sein d'une tendance ou d'un courant qui est minoritaire dans un groupe politique. C'est le cas de Sacha Houlié. Bon, on peut rajouter à ça que Sacha Houlié fait partie...
Beaucoup de députés Renaissance sont élus dans des circonscriptions traditionnellement de gauche.
Oui, et beaucoup dans des circonscriptions traditionnellement de droite aussi. Après, Sacha Houlié fait partie des marcheurs historiques, des compagnons de route du président de la République. Parmi eux, c'est un des seuls qui n'a pas encore eu de Marocain ou de ministère. Donc, est-ce qu'il est aussi dans une logique de pousser au maximum en se disant « ne m'oubliez pas, la commission des lois, c'est bien, mais j'aspire à autre chose ». Il y a peut-être aussi une petite ambition personnelle là-dessus. Je considère pour le coup que enflammer le débat dans un pays qui aujourd'hui va mal et connaît un niveau de tension sans précédent avec ce type de débat, quand on sait que ça n'aboutira pas, parce qu'y compris il faudrait une loi constitutionnelle, il faudrait que le Sénat laisse passer, on sait que ça n'aboutira pas, ça n'a absolument aucun sens. Et puis quand même juste une chose, parce que Madame Aubry tout à l'heure parlait de la lutte pour les droits, moi ce qui m'intéresse c'est aussi les droits des citoyens. Si demain on donne le droit de vote à absolument tout le monde, c'est le dernier droit des citoyens qu'on leur retire. Et moi j'ai aussi un moment envie de défendre le droit des citoyens français qui ont le droit. La seule différenciation, le seul droit supplémentaire d'un citoyen par rapport à un non-citoyen, c'est le droit de vote.
Avant de refermer ce débat, il nous reste 3 minutes 50. Je voulais vous parler de cette polémique, la polémique du jet ski. Emmanuel Macron, il paraît qu'il en fait tous les après-midi au large du fort de Brégançon. Ça provoque la colère des écologistes. Tiens, Julien Bayou, secrétaire général Europe Écologie Les Verts, a réagi au micro d'Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.
Le Haut Conseil pour le climat qui l'appelle un sursaut, c'est une instance indépendante. On a des méga-feux, on a les canicules et on a un président, on a vraiment l'impression qu'on est en plein greenwashing. Un coup, il fait du jet ski et puis quand on lui fait remarquer que c'est trop polluant, il passe au canoë. L'enjeu, c'est pas ses loisirs, mais qu'enfin, il agisse. Et c'est toujours les plus vulnérables qui trinquent. Et moi, j'enrage quand en vrai, on appelle les Français et les Françaises à la sobriété, à faire des efforts, alors qu'en fait, tout le monde se sert déjà la ceinture et qu'on laisse les plus gros pollueurs, les jets privés, les yachts, polluer à loisir. En fait, on a un vrai problème de justice dans cette affaire.
Julien Bayou a raison, c'est vrai qu'Emmanuel Macron fait du jet ski, mais aussi du canoë. Charles Zitenstuhl, il y avait un mauvais signal là, de voir Emmanuel Macron sur son jet ski.
Franchement, je trouve que cette polémique est vraiment pathétique.
Oui.
On n'est pas là pour commenter les activités privées du président de la République, qui paraît les photos...
Le jet ski, c'est polluant.
Et les photos qui viennent de paparazzi pour savoir ce que le président de la République fait du jet ski, combien de temps, est-ce qu'il fait du canoë-kayak, est-ce qu'il fait de la plongée sous-marine. Enfin, honnêtement, je pense que le débat public mérite mieux. Moi, ce que je sais, c'est que le président de la République, il est à Brégançon, il travaille, il prend des vacances, il a le droit. Et en même temps, il travaille, il prépare la rentrée, il est en contact permanent avec la Première ministre. Il a eu 8 de ses homologues au téléphone pour discuter notamment de la situation en Ukraine, pour également évoquer le sujet de l'approvisionnement énergétique de l'Europe cet automne et cet hiver, qui est quand même le grand sujet de transition écologique que nous avons devant nous. Donc peut-être que ces sujets-là sont un peu plus intéressants que les polémiques de Mme Rousseau et M. Bayrou, qui veulent juste se faire mousser, et qui par ailleurs, on l'a vu lors de ce début de session, n'ont absolument aucune idée, aucune proposition et aucun plan sérieux sur l'écologie. Je le dis aussi au passage, parce que moi, je pense que comme beaucoup de Français, je commence à être un peu agacé, voire stupéfait de ce parti d'Europe Écologie Les Verts, qui parle de tout sauf d'écologie d'ailleurs.
Ouais, Sandrine Rousseau qui qualifie la sortie en jet ski d'Emmanuel Macron de criminel. C'est un peu excessif, hein, Jean-Philippe Bugoin-Clément.
Comme quoi les Khmer Verts ont un côté pisse-vinaigre absolu. On est sur une polémique qui est absolument ridicule, pitoyable, minable. Président de la République, qu'il soit président de la République ou pas président de la République, il a le droit de partir en vacances, il a le droit de couper. Le jet-ski n'est pas quelque chose qui est interdit, ce n'est pas illégal. Donc, y a des milliers de Français qui font du jet-ski ou autre chose. Bah, très bien, il allait faire du jet-ski. Et alors ? On peut aimer ou ne pas aimer le président de la République, on peut aimer adhérer ou ne pas adhérer à la politique qu'il propose pour la France, mais la question de savoir comment est-ce qu'il passe ses vacances, je pense que c'est un autre débat. Et puis, Mme Rousseau et M. Bayrou, Mme Rousseau, quand elle dit que c'est criminel, elle ferait mieux d'avoir des positions claires par rapport à des sujets comme l'imam Iqaouden,
d'être Iqaouden,
d'être effectivement là-dessus totalement rectiligne, plutôt que de donner des leçons de morale à tout le monde, surtout en permanence.
C'était le débat d'Europe Soir. Merci Charles Zitzenstuhl. J'espère que je l'ai bien prononcé.
Parfait.
Vous êtes député Renaissance du Bas-Rhin. Je pense que nos auditeurs l'auront compris. Et merci Jean-Philippe Dugoin, Clément, vice-président UDI de la région Île-de-France, également maire de Mennecy. Dans quelques instants sur Europe 1, un nouveau journal. Ce sera avec Wilfried de Villers. Restez avec nous. Nous revenons dans quelques secondes.